Chapitre 12. Allô, Marianne, c'est Anne. Alors, cette nouvelle? Mais c'est génial, tu as super bien travaillé. Je vois avec mon chef s'il est disponible, mais il va falloir qu'on vienne ce week-end. Normalement, je peux prendre mon dimanche. J'en ai un à rattraper. C'est vraiment sympa, mais on va te compliquer la vie. Alors d'accord, je te tiens au courant. Je te fais de grosses bises, tu es un amour. Anne raccroche. Elle réfléchit quelques minutes, puis compose un message à l'intention de Piem. Blois, ce week-end, si possible. Anne. Elle se sent excitée. Cette enquête qu'elle a eu tant de mal à démarrer il y a un mois, sans trop savoir où elle allait la mener, commence à prendre forme. Au départ, elle n'avait rien qu'un pressentiment et ne savait ni où ni comment chercher. D'ailleurs, la fausse piste de l'oncle Jérôme illustre bien les hésitations du début. Aujourd'hui, la machine est en route et des éléments nouveaux arrivent, parfois comme ce coup de téléphone de Marianne, sans qu'elle ait même besoin de les chercher. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments s'enchaînent pour former une histoire vraisemblable. Pourtant, Anne est encore inquiète. Il y a une marge entre le vraisemblable et le vrai. Il reste tout à fait possible que la piste Antoine soit encore une fausse piste. Ne l'ayant jamais rencontré, ils n'ont contre lui que des présomptions assez vagues et pas la moindre preuve. Ils vont devoir s'approcher de lui avec la plus grande prudence. Soit il est le coupable, et dans ce cas certainement dangereux, soit il n'est pour rien dans l'assassinat de son père, et les investigations seront à faire avec de la discrétion et la plus grande délicatesse. Dans ce dernier cas, il faudra trouver une nouvelle piste, et pour le moment, Anne n'en voit pas d'autre. Le soir, quand Piem rentre, Anne se précipite chez lui pour lui rendre compte de l'appel de Marianne. Il lui ouvre la porte en caleçon, prêt à prendre sa douche. « Oh, excuse-moi, Piem, je suis tellement pressée que je ne te laisse même plus le temps d'arriver. »« Ça ne fait rien, j'enfile un peignoir et je t'écoute. Je prendrai ma douche ensuite. » Anne est frappée par la patience de Piem à son égard. Elle pense que si les rôles étaient inversés, elle aurait sûrement réagi plus vivement. « Eh bien voilà, Marianne m'a laissé un message ce matin et je l'ai rappelé ce midi. » Sans que je ne lui ai rien demandé, elle a continué l'enquête pour nous. Elle a recherché Antoine Perrier ou Lassier. Elle a demandé à droite et à gauche, mais sans succès. Alors elle s'est adressée à une copine qui travaille à la Sécu. La copine, tout en la prévenant qu'elle n'avait pas le droit de lui donner ce genre de renseignements, a fait des recherches et a trouvé assez facilement un Antoine Perrier, domicilié à la sortie de la ville, route de Vierzon. Marianne est allée voir sur place. C'est une sorte de brocanteur avec un assez grand dépôt. Alors je t'ai envoyé un message car je pense qu'il serait intéressant de profiter du week-end pour aller faire un tour sur place. Il y a sans doute pas mal de choses à apprendre. D'abord, bravo à Marianne. Elle a très bien travaillé et va nous faire gagner beaucoup de temps. Je suis d'accord pour le petit week-end que tu nous proposes, mais je croyais que tu travaillais ce week-end. « Eh bien oui, je travaille demain samedi, mais je prendrai mon dimanche. Souviens-toi, j'en ai gardé un en réserve quand je ne suis pas montée en Bretagne. On pourrait partir demain, juste quand je sors de la boulangerie. »« Ok, pourquoi pas. Ça ne nous fait perdre que le samedi matin, j'en profiterai pour dormir un peu, surtout si on passe encore une partie de la nuit sur cette fichue cuisine. »« Et moi, je ne me repose pas ?»« Tu n'en as pas besoin, tu es jeune. » On doit avoir à peu près le même âge. Erreur, j'ai 5 ans de plus que toi. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu pourras dormir dans la voiture. Mais comment sais-tu mon âge ? S'inquiète Anne, en se demandant pourquoi la discussion prend tout à coup un tour si personnel. Oh, je sais beaucoup d'autres choses sur toi. Veux-tu que je te dise ? Non, non, c'est bon, je te crois. Répond Anne, qui prend peur, car elle se doute que Piem est bien renseigné est tout à fait capable de lui raconter certains détails de sa vie. Et elle n'a aucune envie d'entendre le récit de ses rencontres avec Jean-Baptiste, surtout raconté par Piem. Elle sent que ce serait parfaitement inconvenant et que ce lui serait très pénible. Après un dîner improvisé, empruntant l'itinéraire habituel par les toits, Anne et Piem sont de nouveau dans l'appartement d'Émile Perrier, au pied du mur, c'est-à-dire face à la cuisine, dans laquelle ils sont persuadés qu'une ou plusieurs planques ont été aménagées. Il s'agit maintenant de les trouver. Anne se précipite sur la bouteille de gaz qu'elle a rêvée truquée et remplie de billets de banque. Elle a l'air bien lourde. En la secouant, elle entend le liquide qui clapote à l'intérieur. Piem gratte une allumette et, ouvrant le robinet de gaz, il allume un brûleur. Il faut se rendre à l'évidence, la bouteille de gaz n'est pas truquée, c'est une vraie. Mais est-ce qu'il n'est pas possible qu'une moitié contienne du gaz et l'autre une planque ? Demande Anne qui s'accroche à son idée. Techniquement, c'est sûrement possible. Il faudrait faire ça par un chaudronnier assez doué. Mais n'oublions pas qu'Émile Perrier était menuisier. Et puis, comment aurait-il fait pour remplacer sa bouteille truquée quand elle aurait été vide ? Il ne pouvait pas la remplir à la pompe ? De mauvais gré, Anne se rend à l'évidence. Il faut chercher ailleurs. Pierre-Emmanuel, lui aussi, a réfléchi depuis la veille. Il expose ses idées. Si on n'a rien trouvé dans les meubles de la cuisine, c'est peut-être que la planque ne s'y trouve pas. Elle est peut-être derrière et les meubles de la cuisine sont là pour la cacher. Mais derrière, il y a un mur. Justement, un mur a toujours une certaine épaisseur. Qu'est-ce qui empêche qu'on y creuse une cache ? Ensuite, on place un meuble devant et ni vu ni connu. Mais je croyais que les murs ici sont tout fins puisqu'on entend tout d'un appartement à l'autre. C'est vrai, entre les appartements, ce sont de simples cloisons. Mais derrière la cuisine du père Perrier, comme derrière la tienne d'ailleurs, c'est la cage d'escalier. Elle date de la construction de l'immeuble et les murs sont sûrement plus épais. Mais le meuble bas de cette cuisine est en L et le petit côté du L est adossé au mur extérieur, sous la fenêtre. Les murs extérieurs d'un vieil immeuble comme le nôtre doivent être assez épais, je dirais 50 cm, d'après la profondeur des fenêtres. Je ne serais pas étonné que ce retour du plan de travail cache une cavité creusée dans le mur. Le meuble en question ne comporte qu'un tiroir au-dessus d'un placard à deux portes. Ils essaient de le déplacer d'un bloc, mais sans succès. Rien ne bouge, tout est bien fixé. On va tout vider pour voir s'il y a des vis accessibles, à moins que ce soit le fond qui se démonte. Ils enlèvent une pile de casseroles, les poêles, les faitous, des moules à gâteaux qu'ils prennent grand soin de ne pas choquer pour éviter de faire du bruit. Mais après une minutieuse inspection à l'intérieur, ils ne trouvent rien. Pas une vis, pas un décrochement, pas un bouton, pas même une fente où glisser un tournevis. Allez, on enlève le rayon et le tiroir, comme ça on verra tout. Le rayon a un peu de mal à sortir. Il faut plusieurs essais avant de trouver la bonne manœuvre. Le tiroir étant un peu lourd, car plein de couverts, ils le prennent à deux pour le sortir et le poser délicatement sur la table. La lampe de poche à la main, ils se glissent à nouveau dans le placard. « Il n'y a vraiment rien !» conclut Anne après quelques minutes d'observation. « C'est tout net, tout lisse !»« Si, là, regarde bien, le panneau du fond est en deux parties. » Une grande partie en bas pour le placard et une petite partie en haut correspondante au tiroir. Elles ne sont pas vraiment ajustées. Et regarde, en haut, il y a un petit trou de vis, comme s'il fallait mettre une vis dans le trou pour saisir et enlever le petit panneau. Piem se redresse et part fouiller dans les caisses à outils pour y trouver une vis ou un crochet qui puisse se visser dans ce trou. Mais Anne est plus perspicace. Elle se dit que s'il est besoin d'une vis pour ouvrir ce panneau, elle se trouve certainement à portée de main. Effectivement, elle trouve un piton à visser dans un cendrier fourre-tout posé juste au-dessus, dans l'angle du plan de travail. Elle rappelle Piem, s'accroupit et visse sans peine le piton dans le trou. Elle tire dessus pour enlever le panneau, mais il bouge à peine. « Attends, j'ai une idée !» s'exclame Piem, qui fait de gros efforts pour rester calme, alors qu'il se sent au comble de l'excitation. « Tire tout droit comme un tiroir !» Effectivement, le panneau coulisse parfaitement en avant, sur les coulisses mêmes du tiroir qui le cachait. Et ce n'est pas seulement un panneau qui vient, C'est un deuxième tiroir caché dans l'épaisseur du mur, sous l'appui de la fenêtre, qui vient à la suite du premier. Malheureusement, il est vide. Il n'y a qu'un carnet qui traîne là. Piem prend le carnet. Peut-être indique-t-il une autre planque, comme dans un jeu de piste. Mais non, ce carnet n'était là que pour tenir un inventaire précis du contenu du tiroir secret. Il débute à la date du 14 septembre 1979, ce qui doit correspondre à l'installation d'Émile Perrier ici, et indique 260 000. Bien que ce ne soit pas précisé, il s'agit de francs, c'est évident. Ligne par ligne, avec une date à chaque fois, sont notées des dépenses avec pour libellé un simple mot. Ces mots correspondent à un code secret, ou plutôt à un procédé mnémotechnique, car leur sens n'apparaît pas en clair. 5 pages seulement sont écrites. En avant-dernière ligne apparaît un solde de 223 565 francs 13 centimes. Puis, en dessous, la date du 8 octobre 2000, sans aucun montant, sans aucun libellé. Enfin, en bas, un énorme zéro a été tracé et souligné. « Qu'en penses-tu ? » demande Anne. « Je crois que nous venons de mettre la main sur un indice de première importance. Il devait y avoir dans ce tiroir une grosse somme d'argent en billets de banque, sans doute 223 565 francs et 13 centimes. Émile Perrier avait là une réserve gagnée au noir dans laquelle il puisait pour ses extras, les sorties avec la comtesse d'Argentière par exemple. Sans doute, il destinait la plus grosse partie de cette somme à son petit-fils Jean-Baptiste. Et alors, docteur Watson, le crime ? C'est simple. Antoine, mettons que ce soit lui, a eu connaissance de cette somme d'argent qui dort chez son père. À la suite de difficultés financières, il croit trouver là la solution à son problème. Il arrive incognito un dimanche soir et, sous la menace d'une arme, réclame l'argent. Le père Perrier s'exécute, ouvre la planque et lui donne le magot. Mais, par peur d'être dénoncé, il tue son père d'un violent coup sur la nuque. Anne réfléchit. Je ne suis pas d'accord avec ta version. Elle ne correspond pas à la psychologie des deux personnages. Alors, Sherlock Holmes, quelle est votre version ? D'après ce que nous savons, Émile Perrier était un personnage sympathique, mais doté d'un caractère entier. Je ne le vois pas, à 80 ans, changer de couleur et faire dans sa culotte en face d'une arme braquée sur lui. Il aurait plutôt été du genre à répondre « Eh bien, tire, qu'est-ce que tu attends ?» Donc, il n'a pas été menacé par une arme et rien ne prouve qu'il y ait eu une arme ici au moment du crime. Je pense plutôt qu'Antoine, toujours dans l'hypothèse où c'est lui, était déjà venu plusieurs fois voir son père et lui réclamait de l'argent. Et peut-être en a-t-il reçu. Mais ses affaires ne s'arrangeant pas, il lui en fallait de plus en plus. Le vieux bonhomme, apitoyé sur le sort de son fils, s'est laissé convaincre une fois de plus. Mais comme il n'avait pas été prévenu de cette visite, il n'avait pas sorti d'argent. Il a dû ouvrir le tiroir devant lui et lui compter une certaine somme. Puis il a pris le carnet et s'est assis à sa table pour noter scrupuleusement la dépense. Mais il n'a eu que le temps de noter la date. La vue de l'énorme tas de billets qui restait a dû tourner la tête du jeune homme. Il a pensé qu'il était si simple de tout prendre et d'oublier définitivement ses soucis d'argent. Se saisissant d'un objet qui traînait par là, il a frappé la nuque du vieux monsieur penché sur son carnet, il a empoché tout ce que contenait le tiroir, de rage a écrit ce zéro sur le carnet qu'il a remis dans sa planque avant de tout remettre en place et de disparaître. Alors là, bravo Sherlock Holmes, tu es supérieurement doué. Je m'incline devant mon maître. Je reconnais que ta version est beaucoup plus vraisemblable que la mienne. En attendant, si nous remettions tout en place... Qu'est-ce qu'on fait du carnet ? Mieux vaut le laisser, c'est une pièce à conviction que la police sera sans doute très heureuse de trouver elle-même. Peut-être porte-t-il les empreintes de l'assassin. Mais avant de le ranger, je vais tout de même le photographier. Heureusement qu'on travaille avec des gants. Quelques minutes plus tard, tout a été minutieusement remis en place. Allez, on rentre, demande Piem. On va fêter ça. Tu n'avais pas dit qu'il devait y avoir plusieurs planques ? Oui, j'ai dit ça, Mais vu le mal qu'on a eu à trouver la première, on risque de chercher encore plusieurs jours avant d'en trouver une autre, si elle existe. Et rien ne prouve qu'il y aurait quelque chose dedans. C'est moi qui bosse demain matin. Toi, tu pourras dormir. Accorde-moi encore une heure. Je crois que je commence à sentir la psychologie de ces cachettes. Alors, si tu ressens la psychologie, cherchons encore une heure, deux même si tu veux. D'accord pour deux. Il est minuit passé. On cherche jusqu'à 2 heures du mat. Après, on plie et on file se coucher. Bon, et d'après ta psychologie, on cherche où ? Je m'étais dit qu'il faudrait vérifier les appareils électroménagers. Dans une machine à laver, par exemple, il doit y avoir de la place pour planquer une boîte ou un paquet. Dans le four aussi, il y a de la place à l'arrière. Sauf qu'on risque de mettre le feu aux billets si on fait chauffer le four. Sauf si le four n'est pas branché, s'il sert juste de décor. Il faut donc commencer par faire un essai de fonctionnement des appareils avant de les démonter pour examiner leurs entrailles. Ils commencent alors par quelques essais. Le four chauffe bien, tous les feux de la plaque de cuisson, électriques ou à gaz, s'allument bien, le frigo et le congélateur sont toujours pleins et bien froids, la machine à laver se remplit et le tambour tourne. Mais ils arrêtent prestement l'expérience par crainte de la réaction des voisins de l'appartement en dessous. Ils pourraient être surpris d'entendre fonctionner une machine à laver dans un appartement inoccupé depuis plus d'un mois. Ils tirent alors ce lave-linge en essayant de faire le moins de bruit possible. Ils le couchent sur le côté et vérifient à la lampe de poche que rien de suspect n'a été glissé dans les espaces libres sous le tambour. De même, ils examinent ensuite de très près le frigo et le four. « Bon, déclare Pienne, il n'y a peut-être pas de deuxième planque. »« Attends, la haute, on a oublié la haute. » Anne monte sur une chaise pour observer le dessus de cette haute. En même temps, Pienne, en appuyant sur les boutons de commande, allume la lumière intégrée, puis lance le ventilateur d'extraction. « Hé !» s'écrie Anne, « tu m'envoies tout l'air dans la figure. C'est normal ?»« Oui, c'est que la haute a été installée en recyclage. » C'est-à-dire que les vapeurs de cuisson, au lieu d'être simplement envoyées à l'extérieur, sont filtrées et renvoyées dans la pièce. Alors, pourquoi y a-t-il ce gros tuyau qui va dehors ? En effet, la haute est fixée sous un meuble haut. Un gros tuyau d'une dizaine de centimètres de diamètre traverse le placard, ressort au-dessus et, après un coude, file horizontalement vers le mur extérieur pour sortir dans le toit. « Tu as raison, déclare Piem, il y a quelque chose de curieux. Éteins la lumière et remets la haute en marche. Je vais voir sur le toit si ça sort. » Anne se glisse derrière la tenture noire, passe par la fenêtre et tâche de repérer la sortie de la haute qui doit ressembler à une sorte de gros champignon. Elle revient au bout de quelques minutes. « Il n'y a rien du tout sur le toit. Ce tuyau est factice. » Peut-être le père Perrier l'avait-il réellement installé pour sa hôte, mais il n'a pas eu l'autorisation de sortir sur le toit. On ne peut pas faire des trous dans le toit d'un immeuble sans autorisation du syndic. Du coup, ce tuyau pourrait bien faire une super planque. C'est ce qu'il nous reste à vérifier. Il monte debout sur le plan de travail de chaque côté de la plaque de cuisson et tente de déboîter le tuyau au niveau du coude. Au début, rien ne bouge, mais à force de faire des mouvements dans tous les sens pour donner du jeu, ils arrivent à gagner 1 millimètre, puis 2. Ensuite, le coude sort plus facilement. Fébrilement, ils essaient de voir s'il y a quelque chose dans le tube. Anne passe la main et ressort une petite pochette de plastique noir, un peu épaisse, dont l'ouverture a été soudée. Elle redescend sur le sol, trouve une paire de ciseaux et ouvre la pochette. C'est bien une liasse de billets de 100 francs. Piem, qui est resté debout sur le plan de travail, a déjà sorti d'autres pochettes noires identiques. Il les fait passer à Anne, qui les empile sur la table. Piem continue à sortir des pochettes. Il y en a dans la partie horizontale et dans la partie verticale du tuyau. Il sort une pochette un peu moins grosse, dont l'ouverture n'a pas été scellée, mais simplement rabattue. Elle contient un petit carnet qui indique, à la date du 14 septembre 1979, la somme de 260 000 francs. Aucun retrait n'est mentionné en dessous, ce qui peut laisser penser que le magot est intact. Voilà au moins quelque chose pour Jean-Baptiste, jubile Anne. C'est génial, s'écrie Piem, redescendu sur le sol. Tu te rends compte, on l'a trouvé cette fichue planque, et intacte encore. Tu permets que je te fasse la bise ? Piem serre Anne très fort dans ses bras, ce qui la surprend un peu, mais elle met ça sur le compte de l'euphorie consécutive à l'aboutissement de leur recherche. Ils mettent tous les sachets contenant les liasses dans un sac, remettent tout en ordre et quittent l'appartement par la fenêtre, en se disant qu'ayant enfin trouvé tout ce qu'ils cherchaient, ils n'auront plus à y revenir. Quand ils reviennent chez Piem, celui-ci cherche une planque provisoire pour le magot. Vu le bazar qu'il y a chez lui, ce n'est pas très difficile de cacher quelque chose. Pourtant, il réfléchit et trouve enfin l'idée qu'il cherche. « Regarde, cette vieille unité centrale d'ordinateur pleine de poussière que je dois jeter depuis des semaines. Je l'ouvre, j'enlève toutes les cartes, on met tout dedans et je referme. Qui penserait que ce vieux clou vaut 260 000 francs ?» Malgré l'excitation de la réussite, Anne sent la fatigue à la gagner. Il est 1h30 du matin. Elle pense que dans quelques heures, elle va partir travailler et qu'il lui faudra tenir la cadence toute la matinée sans faire d'erreur dans ses calculs ou dans ses rendus de monnaie. Mais Piem, qui voulait aller se coucher à minuit, n'a plus du tout sommeil. Il propose à Anne de faire la fête. « Je crois que je dois avoir une bouteille de champagne quelque part, cadeau d'un fournisseur. C'est l'occasion de l'ouvrir. Allez, je tremperai mes lèvres dedans pour te faire plaisir, mais il faut vraiment que j'aille me coucher. Ce que j'ai hâte d'annoncer à Jean-Baptiste tout ce qu'on a trouvé, même si on ne récupère jamais ce qui a été volé dans le tiroir, 260 000 francs, ça devrait l'aider. Mais je ne peux pas lui envoyer un message pour lui dire ça s'il est toujours sous surveillance. Et je ne sais pas quand je pourrai le revoir. Pas ce week-end toujours. »